Service après-vente de la F1.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du service après-vente de la Formule 1, consacré cette semaine au Grand Prix du Japon à Fuji. Un Grand Prix qui risque de faire de cette émission une nouvelle fois un véritable marathon en la compagnie de Shinji, comme il se doit. Bonjour Shinji.
Bonjour Yannick, bonjour à tous.
Oh, hey, ah, Yann, c'est bien.
Je pense aux deux personnes qui nous écoutent.
Oui, d'ailleurs on vous salue, hein. Là, je pense qu'Enzo est dans sa voiture en train de griller un feu rouge parce qu'il se marre à l'idée du générique.
Sans doute.
Hein? Tu l'assumes, ce générique?
Absolument pas.
De quel générique je parle? Je ne vois pas. Donc, retour à Fuji.
Au Japon.
On peut sentir notre enthousiasme.
Oh oui.
Vas-y, parle-nous de Fuji au Japon.
Alors, c'est, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est une vieille piste, enfin vieille. Elle date de 1965. Elle a déjà accueilli deux fois dans les années 70 le Grand Prix du Japon.
Oui. Et quel Grand Prix?
Ah oui. Il y a même eu des morts. C'est...
Voilà.
Voilà. Pour vous dire, enfin, on n'a pas trop envie de rigoler non plus.
Disons que les optimistes auront tendance à dire que c'est grâce à Fuji si on a eu Suzuka.
C'est pas faux.
Voilà.
Donc c'est une piste qui a été rachetée par Toyota, que Toyota a fait modifier par Hermann Tilke, hein, le fameux architecte autrichien de piste de F1, si on peut appeler ça un architecte.
Oui, mais non, c'est dur. Là, tu me chatouilles.
Oui, je sais.
Non, parce que, alors, bon, faut expliquer. Comment dire? Je ne suis pas un contradicteur de Hermann Tilke. Je pense que Hermann Tilke fait les circuits qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire des circuits larges, sécurisés, et c'est vrai que malheureusement ils sont un peu monotones, mais il a quand même fait des beaux trucs, quoi. Il y a au moins un bon virage à Shanghai, le premier.
Toute la Turquie, c'est pas mal.
La Turquie, c'est pas mal. Le Grand Prix de Malaisie est une de mes pistes préférées dans la saison, donc voilà, et puis
qu'est-ce qu'il a. Voilà. Il a travaillé sur Singapour. C'est une piste urbaine, mais il a travaillé dessus.
Oui. Il n'a pas fait Valence.
Je crois aussi, certainement. C'est tout le temps lui qui fait les pistes.
Voilà, donc là, effectivement, sur Valence. Je ne peux pas l'excuser. Il avait dû construire le circuit de nuit, je pense. Il n'avait pas vu le reste qu'il y avait autour.
Donc il rachète, le modifie. Et là, ils vont faire un lobbying face à la FIA. Parce que, donc tu as évoqué Suzuka.
Voilà.
Le Grand Prix de Japon était à Suzuka, sauf que Suzuka appartient à Honda.
Voilà.
Le grand rival national et historique. Et donc, ils ont piqué le Grand Prix du Japon à Honda.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Toyota, c'est, je crois, 600 millions de budget. Enfin, les premières années où ils sont arrivés, c'était 600 millions de budget par an.
Ouais, point.
Donc voilà, c'est énormément d'investissements en Formule 1, c'est beaucoup d'argent qui rentre, ça apporte aussi des sponsors japonais, peut-être plus que Honda, et donc voilà, quand ils veulent quelque chose, comment leur refuser?
C'est vrai. Mais Suzuka devrait revenir. Alors je sais plus si c'est l'an prochain ou dans deux ans.
C'est l'an prochain.
Dès
l'an prochain. En fait, alors il y a deux versions. Moi, j'avais entendu une version soi-disant officieuse, comme quoi on avait fait signer Fuji, je crois, pour 8 ou 10 ans, et qu'on s'est rendu compte que, comme c'était pas bien, on s'est dit on va vite reprendre Suzuka pour au moins faire l'alternance. Et à la version officielle qui dit qu'on avait dit à Fuji, vous ferez 2 ans, et après ce sera l'alternance.
Ouais.
Donc voilà, l'année prochaine, on aura un Grand Prix du Japon qui se déroulera à Suzuka, un Grand Prix qui est parmi les plus beaux et les plus magiques de la saison de Formule 1.
C'est vrai.
Alors que c'est vrai que Fuji, du point de vue piste,
c'est large, c'est plat, c'est... il y a un peu plus de relief que je pensais, mais c'est vrai que l'an dernier, il y avait tellement de brouillard qu'on voyait que dalle.
Cette année, il n'y a pas de brouillard, mais il y avait le même réalisateur, aussi Miernik.
C'est, ouais.
Moi, Fuji, c'est un circuit que j'aime pas trop mal.
Paysage est beau. Le côté sympathique aussi de Fuji, c'est que il y a un côté un peu anachronique, c'est-à-dire qu'on veut des pistes très urbaines,
avec
des hôtels grand luxe, des autoroutes, alors que là c'est paumé Fuji.
Ouais, c'est paumé au plein milieu. C'est un circuit qui est posé à flanc de montagne, enfin à flanc de volcan, en plein milieu de la pente. Et moi, c'est un circuit que, voilà, il est pas passionnant. Il n'y a pas de grande diversité. Techniquement, c'est pas un véritable défi. Quoique, effectivement, il y a ce contraste entre la très longue ligne droite qui nécessite peu d'appui et le reste du circuit qui va en nécessiter. Donc, c'est toujours un peu un crève-cœur. Mais c'est un circuit qui présente des grandes courbes, qui présente des phases d'accélération assez importantes, et je pense que les pilotes y prennent du plaisir, même si il y a cette fameuse fin totalement modifiée par Herman Tilke qui reste moins passionnante.
Donc tu parlais du tracé, donc c'est un tracé de 4,5 km, 4,563 km,
Ouais.
16 virages. Alors tu as évoqué un peu, en effet, c'est un circuit qui est un peu qui est en trois parties. Il y a donc cette grande ligne droite d'1,5 km, c'est la plus longue du championnat de Formule 1.
Oui, derrière, devant
Il y a
celle
ensuite cette partie.
de la Chine, qu'on verra ce week-end.
Ouais. Donc il y a cette deuxième partie avec des virages assez rapides, très larges.
Oui, très
Enfin,
large,
c'est
c'est une
pas.
succession de grandes courbes quand même.
Voilà, c'est une grande courbe. Et donc, cette troisième partie, comme tu as dit, qui est la plus récente, qui est un peu là pour casser la moyenne, de la piste.
Oui, parce qu'à la base, c'était en fait c'était une énorme parabolique qui
Ouais.
rejoignait sur la ligne d'arrivée, et là, c'est devenu une espèce de chicane avec une sorte d'infield à l'intérieur.
Bah, là où il y avait une parabolique, ils ont casé six virages quand même.
Voilà. Moi, je pense que c'est un circuit qui aurait mérité peut-être qui aurait été peut-être un peu plus sympa sans la petite chicane juste dans la montée de la parabolique qui
Ouais.
franchement apporte rien et qui a causé quelques problèmes pendant la course. Là
Et les
encore une fois,
vitesses?
on ménage dans le suspense parce qu'on ne veut pas en parler trop vite.
Ouais.
Moi, c'est le seul point du circuit sur lequel je ne suis pas du tout satisfait.
Alors les vitesses, la Vmax c'est environ 310 km/h en bout de ligne droite.
Ouais.
Bon, avec une ligne droite de cette taille, c'est pas étonnant.
Pour indication, c'est au niveau des zébras, vous savez, à la fin
Ouais.
des...
La moyenne sur le tour, alors la pole elle a été faite environ à 210 km/h.
Ouais.
Ça va, c'est rapide.
Bah, c'est d'ailleurs les. Enfin, on était, même si c'était la deuxième édition de l'ère 2000 de la Formule
Ouais.
1 là-bas, toutes les marques ont été effacées puisque l'année dernière, il faut quand même rappeler qu'on était sous l'eau.
Oui.
Ouais, là, on a vraiment eu du bol. Il
Et
pleuvait
alors,
encore le jeudi soir. Ils ont eu peur le jeudi soir. Ils se sont dit, oh, il
ouais.
pleut. Et puis en fait, non.
En temps, le tour de piste, il est entre 1,18 et 1,20. Et en Q2 de qualif, ils sont même descendus sous la 1,18. Je crois que c'est 1,17,287 par Massa. Donc c'est à peu près tout sur le tracé en lui-même. Hein.
Oui, que dire de plus? Oui, c'est un
C'est-à-dire
tracé
qu'on
qui est
voit la.
triste.
Ouais.
C'est moi, je trouve ça un tracé qui est triste. On n'en a pas parlé. C'est vrai que quand on prend Suzuka avec la grande roue, enfin la fête foraine, etc. Voilà, là, c'est franchement un tracé qui est triste. Donc, bah, puisqu'on en a fini avec la piste, on peut passer peut-être au contexte d'avant-course.
En course avec
Ça
classement les
correspondrait
classements
avec les
un peu.
classements. Donc, les classements au championnat après la course de Singapour, Hamilton avait pris un peu le large avec
7 points d'avance.
7 points d'avance avec 84 points devant
Ce
Felipe
qui
Massa.
ces 7 points sont quand même assez importants parce que vraiment les trois dernières courses, c'est la dernière ligne droite. C'est là où vraiment les titres peuvent tomber. Et donc a priori, surtout vu ce qui s'est passé l'an dernier, on s'attendait à avoir à gérer cette petite avance, mais
Ouais.
qui est quand même assez large. C'est un matelas assez intéressant.
Le seul qui avait à perdre pendant cette course, c'était Kimi Räikkönen, qui était à 27 points. Il restait 30 points à distribuer. Donc, si Kimi Räikkönen gagnait la course et que les trois autres abandonnaient, il revenait à 17 points, un peu comme la saison dernière.
Voilà.
Mais bon, c'était théoriquement, c'était la course où il perdait son titre parce qu'avec la physionomie de cette fin de saison, c'était quasiment pas possible qu'il fasse une bonne performance.
Et alors, chez les constructeurs, McLaren était enfin passé devant Ferrari pour un petit point.
À signaler aussi qu'on avait Renault qui avait pris l'ascendance sur Toyota. Un ascendant pas encore très franc, puisqu'il n'y avait que 5 points
Cinq
d'écart.
points d'écart.
Et on pouvait espérer avoir une belle bataille, au moins au Japon en plus, parce que c'est vrai qu'on est sur les terres de Toyota. Donc on pouvait espérer avoir quelque chose d'assez sympathique.
Alors maintenant, on va passer aux nouvelles, puisque on a eu quelques informations entre les deux courses, entre Singapour et Fuji,
Oui.
notamment de la part de la FIA, qui a signé, juste avant le Grand Prix de Fuji, un programme de promotion de l'environnement, un beau programme dont le nom c'est Make Car Green, rendre les voitures plus vertes.
Ferrari qui était content.
Honda, il va être content. Et donc Bridgestone, pour l'occasion, avait décidé de marquer le coup en proposant, pour ce Grand Prix, des pneus verts. Alors, quand on parle de pneus verts, c'est pas des pneus de fabrication particulière. Non, non, c'était les mêmes pneus que d'habitude, mais ils étaient verts. Les rainures des pneus étaient verts. Donc, pour les pneus durs, 4 rainures vertes. Et pour les pneus tendres, 3 rainures vertes plus la rainure blanche.
Ouais, c'était d'ailleurs très, 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 très esthétique à voir à la télévision.
C'est
Bon.
joli.
Oui, c'était beau sur les Honda. Après,
Ouais.
c'est vrai que, bon, voilà, sur une McLaren, c'est pas joli. Sur une Ferrari, ça pouvait passer, mais c'est pas très joli. En plus, pour avoir vu une séance d'essai et une séance de qualification, c'était pas nécessairement évident, puisque comme tu l'as dit, les pneus tendres, ils ont conservé donc la marque blanche auxquels ils ont ajouté les trois verts, sauf qu'effectivement, il faisait pas nécessairement un grand beau soleil, donc au niveau de luminosité, c'était pas idéal. Et donc, on a eu, sur certains plans, on avait l'impression d'avoir trois verts pâles, et c'était pas du tout lisible, alors que justement, la règle pneumatique veut que ce soit lisible. Et en plus, voilà, c'est un plan pour faire écologie, c'est un peu comme Honda, quoi, qui nous fait une voiture verte.
Ouais.
Une voiture avec la terre dessus, comme leur horreur de l'année dernière.
C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré ne pas avoir ça et puis de vraies propositions pour l'avenir. Euh,
Oui, voilà.
ça, ça, ça a un côté un peu t-shirt antiraciste dans le foot, quoi.
Oui,
C'est sur
ou
le coup, c'est de l'image, mais on aimerait que ça aille plus loin.
on avait eu aussi les badges pour les JO.
Ouais.
Voilà. C'est un peu cucu, quoi. C'est très bien d'avoir des attentions pour l'environnement, mais je pense que il vaut mieux agir, il vaut mieux discuter, plutôt que de faire ce genre d'initiative, qui, au final, je sais pas vraiment si les gens ont eu le message en regardant la Formule 1, quoi.
Oui, alors tu voulais nous évoquer aussi la tension sur les épaules de Massa juste avant cette course de Fuji.
Bah oui, parce que comme tu l'as dit, sur au niveau du classement, il a 7 points de retard. Et on a un petit peu tous dit que Hamilton, étant donné ses erreurs l'année dernière, avait appris qu'il n'allait pas se faire coincer comme l'année dernière. Donc il avait 7 points de retard. Il reste 3 courses à faire. Hamilton a juste à se mettre dans le diffuseur de Massa, ce qu'il est parfaitement capable de faire.
Oui.
Massa, faut quand même rappeler que c'est, depuis plusieurs courses, c'est quand même un pilote dont on a l'impression qu'il n'est pas nécessairement le leader de l'équipe. On a eu des incidents comme à Singapour qui ont laissé planer un certain trouble. On a eu beaucoup de mal à domestiquer Raikkonen pour lui dire maintenant tu te bats pour l'équipe. Ça a été très poussif à obtenir. Il a fallu le réaffirmer plusieurs fois par voie de presse. Donc on n'a pas senti Massa véritablement s'imposer comme le leader de l'équipe. Moi je m'attendais un petit peu à ce que on retrouve un Massa qui est un peu sous la pression, comme le Massa qu'on a en course quand il est deuxième ou troisième. Et qu'il est obligé de courir un peu après une place, etc. Et qu'il se met à faire un peu n'importe quoi. On a parlé la semaine dernière de son Grand Prix, de sa fin de Grand Prix à Singapour. On a évoqué la course de Silverstone. Et voilà, il aime pas trop être derrière, il aime bien être devant. Et là, je pense que l'écart de 7 points était quand même un écart, à 3 courses de la fin, un écart un petit peu trop important pour ses épaules. Mais il a montré en début de saison, quand il avait été. Il avait fait deux erreurs sur les deux premiers Grands Prix, ou encore la saison dernière quand il avait fait des erreurs à Bahreïn et je sais plus où. Il a montré qu'il pouvait revenir et qu'il pouvait être plus fort. Maintenant, c'est un titre qui est en jeu et je pense qu'il y a énormément de poids qui pèse sur ses épaules, peut-être même plus que sur Hamilton.
Est-ce que tu penses que cette tension pouvait l'aider pour cette course? Parce qu'on peut peut-être aborder les pronostics. T'avais pronostiqué Raikkonen, je crois.
J'avais pronostiqué Raikkonen, j'avais pronostiqué un duel de Finlandais, Raikkonen, Kovalainen.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Sans exclure nécessairement Hamilton et Massa, mais j'avais pronostiqué les deux Finlandais. Ouais. Voilà, ça me semblait pas nécessairement. Massa ne me semblait pas nécessairement favori. Et puis Massa, j'ai toujours du mal à le mettre favori parce que il est capable de nous surprendre. Il l'a souvent fait cette saison. Il a été capable d'être mauvais sur des circuits et d'être excellent sur des circuits alors que les deux circuits sont très proches.
C'est vrai.
Donc on l'a vu très mal à l'aise, par exemple à Montréal, qui est un circuit très étroit, qui est un circuit très tortueux, alors que l'on prend à Valence, qui même s'il est un circuit urbain, c'est plus un circuit, je vais dire périurbain, peu à l'image de Melbourne et de Montréal. Par contre là, il a été totalement surprenant. Donc voilà, franchement, je m'attends pas du tout à ce qu'il fasse une course fantastique.
Bon, je me rappelle, j'avais dit Hamilton, hein, à peu près pour les mêmes raisons que toi.
Oui, en même temps, c'est dur de pas le pronostiquer.
Voilà. Et puis Raikkonen, parce que quand même, ça commence à faire longtemps sans victoire.
Mais Raikkonen, on le disait à chaque course.
C'est vrai.
C'est à chaque course, on dit, mais c'est bon, maintenant, faut qu'il gagne. C'est pas possible, quoi. Il ne peut pas. Et pourtant, il peut, hein, depuis le Grand Prix de je sais plus quand. Grand Prix d'Espagne, c'est ça. Ça fait trop long.
Oui, ça fait longtemps. Presque une victoire en France, mais ça n'a pas suffi.
Donc, on a fait à peu près tout ce qu'il fallait. Voilà, on a parlé de la météo. Il y avait, comme toujours à Fuji, il y a le risque de la pluie.
Là, ça avait.
Il n'y a plus avant, mais ça a été rapidement écarté.
On va passer à la grille.
À la grille de départ, oui. Alors, on va inverser un peu par rapport à la semaine dernière, puisque comme monsieur est parti au salon de l'automobile, caresser les Formule 1 et se balader à l'intérieur d'une Fiat 500, c'est ça?
Oui, géante.
oui. Tu n'es pas un lilliputien. Donc, comme moi j'ai vu les qualifications, on va inverser les rôles. C'est toi qui fais la grille et c'est moi qui dis qui a bien fait, qui a pas bien fait.
Ce que je peux dire, au moins en regardant la grille, c'est que on a quand même des équipes assez échelonnées. À part BMW et Renault, les voitures sont deux voitures d'une même écurie sont rarement à plus d'une place d'écart.
Je sais pas parce que il y a quand même on va repasser la grille en détail, mais bon, on a quand même Hamilton qui est deuxième, Kovalainen cinquième.
Troisième.
Ben oui, je suis sur Singapour. Et comme la semaine dernière. Allez, je me fais avoir comme la semaine dernière. Ah ben oui, il est troisième.
Eh oui.
Mais on a quand même Raikkonen qui est deuxième et Massa qui est cinquième.
Ouais.
Non, donc, ouais.
Paul de Hamilton,
ouais, c'est
12e pole pour Lewis Hamilton, 140e pole pour McLaren et 69e pole pour Mercedes.
Ça fait quand même un ratio pour Hamilton, presque 10% des poles de McLaren ont été faites par Hamilton en deux saisons.
C'est
une bonne statistique quand même, parce que faut quand même rappeler que chez McLaren, il y a eu Senna.
Oui.
Qui a pu faire bien 50-55 poles chez McLaren.
Ouais, donc il est à plus de 30%.
Voilà, donc là c'est des bonnes stats. C'est voilà, pour un rookie, c'est bien. Donc, pour la pole position, c'est un peu une pole position à la Massa. Voilà, Massa nous a habitué cette saison à que Hamilton soit favori pour la pole et hop, il la chip au dernier moment, un peu comme à Singapour, un peu comme à Valence. Et là, Hamilton nous a fait une Massa. C'était clairement Massa qui était favori. Il a signé dans les deux. Il a signé le meilleur tour de tout le week-end, de tout le circuit depuis ces deux saisons. Il a été très très rapide et en fait, c'est Hamilton qui a remporté la mise à la dernière seconde dans le dernier run.
Comme souvent. Alors un comeback en première ligne.
Ça faisait un bail.
Ça faisait un bail qui n'était pas en première.
Oui, je sais plus, ça fait. Je crois que c'est pas le Grand Prix de France.
Oui, sans doute. Et donc, mais il a pu jouer la pole ou vraiment.
Il
pouvait être.
Raikkonen aurait vraiment pu jouer la pole. Il a été bien tout le week-end. On l'a senti vraiment, on va dire, meilleur. Il a fait une interview cette semaine où il expliquait que c'est vrai que. au cours de la saison, il ne s'était pas nécessairement senti super bien avec la voiture. Et que depuis quelques courses, il commençait à retrouver des sensations avec la voiture. Ce n'était pas top. Mais qu'il reprenait du plaisir et ça se voit. Ce n'est pas encore du grand Raikkonen, mais ça se voit. Il a fait une bonne qualification. Mais je pense que voilà, Raikkonen s'est contenté d'une deuxième place. Il était quand même bien content d'être deuxième. Ça le remotive, je pense.
Alors, troisième, l'autre Finlandais, Kovalainen.
Ouais, bah, j'avouerai que je ne l'ai même pas vu celui-là. Tout comme quatrième. Le quatrième, d'ailleurs. Le quatrième, je ne l'ai pas vu arriver.
Quatrième, Fernando Alonso, qui confirme un peu la bonne santé de Renault.
Et qui avait dit pourtant, ici, ce n'est pas pour nous. Alors qu'il fait quatrième sur la grille. Ouais. Mais ouais, franchement, Alonso, moi, je l'ai presque pas vu en qualif. Bon, c'était 6h30 du matin, donc.
C'est vrai que c'est nécessairement
très réveillé. Tu connais, Sam, qu'à 6h30 du matin, c'est généralement l'heure où je me couche. Donc, non, mais franchement, j'ai pas souvenir. C'est un beau score. En plus, il est très très près de la troisième place. Mmh. Donc, voilà. Mais je crois qu'en plus, Renault avait fait un premier relais très court. Mais voilà, faut le faire.
Alors, cinquième seulement, Massa. Ce qui, dans l'optique du titre.
Tout le monde pensait que c'était mort. Parce que voilà, tu laisses partir Hamilton en premier sur une piste où il a déjà gagné l'année dernière. Hamilton, c'est pareil. Autant on le souligne chez Massa parce que c'est entre guillemets sa seule qualité, c'est quand il est devant en tête d'une course, il est imbattable. Hamilton, il est imbattable quand il est troisième, il est imbattable quand il est premier, quoi. Donc, voilà, c'est effectivement être à 5 places derrière Hamilton. Ça, je pense que ça a rajouté de l'attention. On en parlait tout à l'heure, je pense que ça a rajouté de l'attention.
Sixième Kubica.
Ouais, c'est une bonne qualification. Enfin, il confirme, quoi. Il n'y a pas de surprise. Puis comme je dis, Alonso était peut-être plus léger. Donc cette sixième place en performance, c'est sans doute plus une cinquième place qu'une sixième place. Et juste pour revenir sur Massa, par rapport à sa qualification, elle a un petit peu surpris tout le monde parce que justement, comme je disais, il a vraiment dominé les deux premières phases de qualification. À Singapour, il avait gagné la pole avec 6 dixièmes d'avance sur Hamilton. Et après, il avait déclaré « si on avait su, on aurait pu mettre plus d'essence ». Et on pense que chez Ferrari, on a été optimiste et qu'on a préféré mettre un peu plus d'essence à Massa en se disant « il va faire le tour ». On a peut-être un petit peu trop sous-estimé. On a vu que Massa dominait la Q1 et la Q2, donc on l'a fait partir un peu plus lourd. Et apparemment, finalement, ça lui a coûté cher, puisqu'il perd 4 dixièmes. Alors 4 dixièmes, c'est pas énorme, c'est pas un gouffre. Hein. Mais ici, à Fuji, 4 dixièmes, c'est 4 places. Quoi.
Voilà. Alors quatrième ligne, voilà. Toyota à la maison.
Ouais.
Alors Trulli 7 et Glock 8.
Glock a été très bien. C'est un pilote, je me moquais un petit peu de lui au début de saison parce que voilà, il a déjà fait de la F1, il a gagné le GP2, mais bon, sans vraiment avoir été concurrencé. Et depuis son accident en Allemagne, c'est un pilote qui commence à m'impressionner de plus en plus. Et là, on l'a vraiment vu tout le week-end aller titiller Trulli, et on sait que Trulli, sur une qualification, il faut aller le chercher. Et là, il est pas très loin, il est à un dixième seulement. Donc, c'est une très belle qualif.
Cinquième ligne, là encore, doublé Toro Rosso, Vettel 9 ouais. Et Bourdais 10.
Ouais, en sachant que Bourdais a, sur les essais, sur les qualifs, dans toutes les qualifs, il a dominé Vettel. Vettel lui-même l'a reconnu, il a dit après la course qu'il n'y avait rien à faire, il n'avait rien pu faire pour inverser la tendance. Bourdais était au-dessus de Vettel. Et voilà, c'est là où on voit Toro Rosso la stratégie, c'est que on n'a pas donné à Bourdais la stratégie préférentielle, c'est-à-dire la stratégie avec moins d'essence. Donc il est, je crois, à 5 dixièmes de Vettel, mais ouais. Voilà, mais avec le plein, quoi. Donc c'est une très très belle dixième place, en sachant que il aurait facilement pu flirter avec la neuvième et peut-être un petit peu troubler les Toyota.
11e Coulthard, 12 Piquet, 13 Weber, 14 Nakajima.
Piquet qui est bien classé.
Oui, c'est vrai. Bon, non, il a fait mieux que ça.
Là, pour Piquet, c'est pas trop mal. Il était quand même parti, je crois, 16e au dernier Grand Prix. Ça, quand même, ça lui améliore sa moyenne.
C'est vrai.
Hein, qui était pas très haute, c'est tout.
Donc 13 Weber, 14 Nakajima, 15 Rosberg, 16 Hedfeld. Ça, ça devait être
ouais, alors, lui, hein. Oui, alors d'abord, juste sur les Williams, bon, c'était prévu, il l'avait dit, Williams, ouais. qu'il serait pas présent. On s'y attendait pas non plus. Tu l'avais dit à propos de Singapour, le gabarit de la Williams fait qu'elle est agile sur les petits circuits. Par contre, sur les grands circuits, ben voilà, c'est pas ça. Puis oui, Hedfeld 16e, je sais pas quoi dire en fait. J'ai eu des discussions sur un blog cette semaine, le blog de Jean-Louis Moncey, où j'explique ma vision du cas Hedfeld. Enfin, c'est quand même un type qui, il y a 10 jours, a été confirmé comme pilote numéro 2. Pilote titulaire l'année prochaine chez BMW, une équipe qui, rappelons-le, est censée quand même courir pour le titre la saison prochaine. Mm. Pas courir pour la victoire, mais courir pour les victoires, pour ces deux pilotes. Donc ça devrait être le truc qui requinque, quoi, qui motive. Et voilà, on l'a 16e. Alors pour le justifier un petit peu, parce que bon, ça serait être méchant de dire qu'il est 16e, BMW a apparemment voulu économiser des pneumatiques. Pour la Q2 et la Q3. Et malheureusement, mauvais timing, ils ont mis les pneus trop tard. Ils se sont rendu compte qu'en fait, à la fois Kubica et Hedfeld ont failli passer la trappe. Kubica a eu les pneus en premier, donc il a eu le temps de faire un tour rapide. Et je crois qu'en Q1, il a fait 14e temps. Et Nick Hedfeld, malheureusement, pas pu améliorer. Donc il reste 16e. C'est une 16e place qui n'est pas nécessairement méritée. C'est une tendance de la saison et puis on l'a pas nécessairement senti super saignant tout au long du week-end. Voilà, moi je reste sur ce qu'ils avaient déclaré au début de saison par rapport à Kubica qui faisait un début de saison tonitruant. Et les ingénieurs de BMW disaient mais c'est pas Hedfeld qui a baissé. Hedfeld il fait le même boulot qu'en 2007. C'est Kubica qui a doublé son niveau de jeu. Et le problème c'est que l'année prochaine BMW veut jouer le titre. Et Hedfeld pour le moment il est comme en 2007. Et ce qu'on peut craindre, c'est que BMW ait un pilote en 2009 qui soit comme en 2008, donc comme en 2007.
Ouais.
Donc ça va faire un bon numéro 2, parce que voilà, faut être honnête envers Hedfeld, c'est un très bon pilote. Mais voilà, il a été renouvelé chez BMW, je pense, plus par dépit que par véritable conviction.
Alors les Honda 17 et 18, hein, Barrichello 17, Button 18, comme d'habitude.
Ouais, c'est bien, il faut une ligne devant
Force India. Et donc, une dernière ligne, à moteur Ferrari.
Comme on avait dit l'année dernière.
Sutil 19 et Fisichella 20.
J'avais remarqué pendant le Grand Prix, j'ai pas réussi à retrouver la statistique, c'était une statistique assez intéressante sur la marque en qualification entre coéquipiers. Et on avait, par exemple, Fernando Alonso, qu'on était à 14 à 0 contre Piquet. On avait Massa, qui était à 10 contre 4 face à Raikkonen. C'est passé à 10 contre 5, puisque Raikkonen s'est qualifié devant. C'est les deux chiffres que j'ai vraiment retenus. J'ai pas retenu les autres. Mais je vais essayer pour les prochains de retrouver ces statistiques.
Sinon, tu sors ta calculatrice.
Oui, mais non. Non, je suis feignant. Donc voilà, ça c'était pour la grille, pas vraiment surprenante par rapport à l'ensemble du panorama du plateau en ce moment. On a Hamilton en tête avec Raikkonen, bon, les Ferrari sont devant, les McLaren sont devant. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on a quand on regarde bien, on a Hamilton, donc on a les Ferrari, les McLaren, et on a Fernando Alonso qui est tout seul devant les deux Toyota. Et on sait qu'au classement général, c'est ça qui fait la différence. C'est Fernando Alonso seul contre les deux Toyota.
Toyota, ouais.
Voilà. Et on a aussi Vettel et Bourdais devant les deux Red Bull. Elle en Q3. Et c'est révélateur de cette fin de saison où Toro Rosso a, je pense, définitivement pris l'ascendant sur Red Bull. Donc, voilà, je pense qu'on peut passer
au gros morceau, à la course. À la course en elle-même.
Et à ton fameux top flop.
Eh oui.
Alors, c'est qui le top cette semaine?
Qui est le top? Donc,
top 45.
Qui a gagné la course?
Je cherche. Alonso? Ah non, je suis sur Singapour.
Regarde bien.
Ah bah non, je suis sur... Gagné.
C'est Alonso.
Mais j'aimerais que je l'ai pas vu sa course, donc je peux pas en dire grand chose.
Tu l'as vu la course?
Oui, mais j'avouerai que dans la course, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses.
Détails de la course.
Quand on regarde les temps autour, et apparemment il a fait un premier relais énorme.
Ah oh, oui.
Derrière Kubica. Et puis bon, bah il a profité aussi des circonstances de course. Les deux pilotes Ferrari, les deux pilotes McLaren se sont quand même légèrement écartés de la victoire tout seul. Et voilà, et puis Kubica a ravitaillé plus tard, et puis après il a eu des problèmes de pneus avec un graining sur ses pneus pendant 3 ou 4 tours. Donc ça a laissé le champ libre à Alonso. Alonso, bon bah voilà, quand il est devant, il fait le travail. La Renault est bonne, donc voilà. Moi je l'ai trouvé personnellement moins impressionnant qu'à Singapour, parce que vraiment à Singapour c'est surprenant.
Parce que beaucoup de gens disent le contraire, parce que justement les circonstances étaient quand même moins. Il n'y avait pas de.
J'ai trouvé que Alonso avait répondu aux circonstances à Singapour. Donc c'est vrai que même si à Singapour, entre guillemets, c'est un coup de bol,
ouais.
il a quand même répondu aux circonstances. Il a quand même aligné des temps avec une voiture qu'on n'attendait pas à cet endroit-là.
C'est vrai que là, il part 4.
Voilà, c'est moins surprenant. Il est quand même attendu après sa victoire. On sait que l'écurie est requinquée. On sait que Renault a retrouvé un peu le chemin de la victoire. Donc voilà, on sait qu'ils peuvent être capables de mener le rythme. Et puis, McLaren et Ferrari, on les a pas sentis en train de dominer. On a juste senti un peu BMW tassé un peu en dessous. Mais voilà, donc il a fait un magnifique premier relais. Et après, il a fait une course à la Alonso. Voilà, Renault est redevenu une grande équipe, donc ça me surprend plus. Ouais. C'est surtout dans ce sens-là que ça me surprend plus.
Oui,
c'est que
voilà.
On a retrouvé Renault. Même si ça me fait chier.
Deuxième top, donc le deuxième de la course, c'est Kubica qui fait son meilleur résultat depuis sa victoire au Canada.
Mais Kubica, sur cette fin de saison, c'est une énigme. J'ai la réponse.
Ah.
Oui, j'ai la réponse. Kubica, c'est quand même un pilote qui a remporté une course, qui a mené le championnat et qui a honnêtement a la régularité et le matériel pour venir jouer les troubles faites.
Oui.
Il a beau être à 20 points. Sans compter ces 5 ou toutes ces courses depuis le Canada où il a fait des résultats un peu en demi-teinte, la ligne sur laquelle il était parti jusqu'au Canada, il était extrêmement régulier, il faisait quasiment tout le temps des podiums où il finissait 4 ou 5. Donc c'était pour moi un candidat sérieux. Et BMW trop les yeux fixés sur son planning, en se disant voilà, on ne joue le titre qu'en 2009. A un petit peu levé le pied, s'est concentré sur
le Canada. Ouais.
Après Canada, ils avaient rempli leur objectif, une victoire. Donc ils ont levé le pied. Kubica a manifesté il y a quelques semaines dans la presse en disant voilà, moi je veux qu'on me donne le matériel, je peux me battre pour le titre, je veux qu'on me donne la voiture, je veux qu'on fasse de moi le leader de l'équipe, parce qu'on considère toujours Heidfeld et Kubica comme égaux, alors que la saison d'Heidfeld est franchement pas terrible. Donc voilà, moi je pense que c'est un mec. Kubica, ça a l'air d'être le genre de mec qui, peut-être plus que Raikkonen, parce que Raikkonen, il va piloter tout le temps avec le même plaisir, avec l'envie de gagner, etc. Kubica, il va calculer. Il va calculer son potentiel, et là, s'il sent que l'équipe est pas derrière lui, qu'on n'a pas envie de lui donner le titre, bah, il va rien faire. Et je pense que s'il sent, là, vers la fin de saison que, puisqu'il finit deuxième, donc il a repris des points sur Massa et Hamilton. Je pense que ça va peut-être le motiver. Ça a donné aussi peut-être des idées à BMW. Et je pense que là, il peut devenir un homme dangereux. Parce que s'il retrouve sa régularité aux avant-postes, à faire des deuxième et troisième places, si les leaders se remettent à faire des erreurs, ça va être problématique pour eux.
Et pourquoi pas un hold-up en 2008? Parce que là, ça serait un énorme hold-up. Alors, troisième top. Et là, je suis content.
Pour une fois qu'il est dans les tops.
Parce que c'est Raikkonen qui a été troisième.
Ouais.
Je dirais, en partant deuxième, c'était bien le minimum à faire. Bon, c'est vrai qu'il a été... Il peut être déçu, malgré tout.
Moi, il y a de l'optimisme. Enfin,
c'est-à-dire que c'est simple. C'est-à-dire que la Hongrie, il a fait troisième. Et entre-temps, il n'a pas marqué un seul point. Donc...
Voilà, c'est le truc qui est bien, quoi. Il marque des points. Comment dire ? Moi, cette course, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les qualifications, on a retrouvé un peu de Raikkonen. Mm. Mais on ne l'a pas retrouvé entièrement.
Non, il aurait pu gagner.
Et la course, c'est un peu ça, quoi. Il prend un envol magnifique où c'est Hamilton qui se loupe au départ, mais bon, Hamilton, Raikkonen fait un super départ. Bon, arrive le problème de la première, le premier virage dont on aura l'occasion de parler, qui ruine la course de Raikkonen. Donc à partir de ce moment-là, Raikkonen se retrouve à lutter pour une place sur le podium, quoique je pense qu'il pouvait quand même se battre pour la course. Et voilà, on a senti comme une course de Raikkonen qui était sinusoïdale, quoi. Et à un moment donné, il était bien, parce que quand il a senti que Kubica était en train d'avoir des difficultés avec ses pneus, hop, il a attaqué. Et puis voilà, il a quand même fait une... Je pense qu'il a quand même voulu gérer en se disant, voilà, je vais finir troisième. Bah là, j'ai voulu attaquer comme un fou à Singapour, je me suis pris le mur, j'ai pas marqué de points. Donc voilà, je vais marquer des points, je vais penser à l'équipe. Je dirais pas comme toi qu'on a retrouvé, on a retrouvé Raikkonen, quoi. On a retrouvé un bout.
Ouais.
Mais c'est pas tout.
T'as raison, c'est vrai que pour la première fois, on a aussi senti bah, qu'il a géré. Parce que là, tous les points comptent.
Puis il a dû se faire frapper, quoi.
Ah là, ouais, après ce qui s'est passé à Singapour.
Tu sais, moi, je donne des lignes aux gamins à l'école, lui, il se prend des kilomètres à faire.
Ouais.
Il en est déjà à 9000 hein, pour le mois de décembre. Le pauvre.
9000.
Oui, parce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a appris, je crois que c'était hier, que Kimi Raikkonen allait être astreint à parcourir 9000 km d'essai en un mois pendant l'intersaison. Bon, ce qui représente quand même l'équivalent de 30 Grands Prix. À savoir que depuis le début de sa carrière chez Sauber Petronas en 2001, Raikkonen a fait 33000 km. Et là, juste en un mois, il va en faire 9000 d'un coup. C'est aussi le signe que, voilà. Chez Ferrari, on n'a pas nécessairement super confiance en Massa. On sait que c'est pas un leader et que c'est pas lui l'avenir de l'équipe. Et on veut que Raikkonen ne passe pas à côté. Et on lui dit, voilà, tu veux une voiture qui soit à ta main, et ben, travaille pour l'avoir. Donc, mais ouais, c'est le revoir sur le podium, ça fait plaisir. Même si c'était un podium, puisqu'on a parlé du podium, moi, le podium, je l'ai trouvé parfaitement bizarre. Alonso qui papote avec Kubica pendant les hymnes.
Ouais, c'est vrai.
Avec Kimi tout seul sur le côté. J'ai trouvé ça...
Tu sais qu'après, j'ai vu une photo où quand Kubica commence à vraiment asperger Alonso, on voit Raikkonen derrière qui sourit.
Oh la vache.
Et ouais.
C'est un collecteur, le mec, il l'a vendu au moins 15 000 euros. Non, mais en plus, il paraît que c'est un gros déconneur.
Ah oui, en dehors...
Bah, de toute façon, un mec qui se peinte la gueule à coup de vodka, il peut être que bien. Donc, a fait le tour sur Raikkonen.
Ouais.
Donc... C'est con, on a été bref, on n'en arrivait plus. Donc, quatrième top. Oh non, je viens de voir ce que t'as écrit. T'as pas osé mettre lui.
Qui? Bah si.
Ah non.
Bah il finit quatrième.
Alors, bah, oh là là, non.
Je sais que ça te fait du mal.
Ah oui, attends, je mets mon doigt sur la feuille, comme ça, hop, je vois pas. Raikkonen, hop, et je passe tout de suite au cinquième.
Parce que c'est Piqué qui finit quatrième de la course. Sachant que tu l'avais dit, il s'est qualifié loin.
Ouais, bah c'est pas mal pour lui, hein, 12e.
12e, 4e, c'est pas mal quand même. Il y en a que même.
Mais en plus, il aurait pu faire mieux, quoi. Ils auraient pu jouer le doublé, quoi. C'est impressionnant.
C'est une des rares pistes où Piqué a montré quelque chose. Voilà.
Ouais, on sait pas quoi, mais.
Déjà, il a montré qu'il pouvait être pilote de F1. Tu me diras, mais je pense... à la fin de la saison, c'est pas trop tôt.
Ce que j'aurais aimé être justement Raikkonen. Tu vois arriver derrière toi à fond, parce que à la fin ils remontaient clairement sur Raikkonen et Kubica. On a même cru qu'ils allaient faire doubler. Et tu vois arriver à fond une Renault avec un casque qui est pas celui d'Alonso. Tu dis, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Bon, d'accord, généralement je suis loin, mais je suis pas aussi loin que ça. Surtout Raikkonen, quoi, qui est abonné au 6e place aux abandons, il a dû paniquer à ce moment-là. Il dit, merde, je suis à un tour, ça se trouve. Merde.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.
Bon bah là on a l'air con.
Là vous avez eu une coupure brute.
On était en train de se marrer là, on était en train de se dire ouais, tout ça, on était. J'étais en train de raconter un truc super drôle sur Piqué, et apparemment, je sais pas, c'est Senna qui me regarde d'en haut et qui a coupé la communication. Comme ça, tout net.
Clac.
Il s'est dit, Massa, il fait trop de conneries, je me penche sur Piqué. Le pauvre, il doit être désespéré. Donc voilà, non, on s'excuse. Voilà.
Voilà. En même temps, ça te plaît qu'il y ait cette coupure comme ça, tu vas pouvoir abréger ton discours sur Piqué.
Oui, voilà, ça le sauve. Mais voilà, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir Piqué devant. C'est la preuve que la Renault marche bien en ce moment. Donc toi, tu l'avais mis pourquoi
De quoi? Pourquoi Piqué?
Ouais, t'avais je sais pas. T'avais fumé quelque chose, non? Pour un Smarties?
c'est pas moi qui ai fumé un truc, c'est lui et sa Renault.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je veux voir les tests sanguins. Non, pas de Piqué, de la Renault, je parle, hein, parce que Alonso premier et Piqué quatrième. Si on m'avait dit ça au début de la saison, j'aurais pas cru.
Alors, cinquième top.
Jarno. Les Fezzer.
Presque chez lui. Enfin.
Oui, bon, c'est pas loin.
Chez Toyota.
Ouais, voilà, il est chez Toyota. À côté, il y a des rizières, ça ressemble à des vignes. Parce que Trulli possède des vignes.
Oui, toi aussi, tu as l'UFA Racing.
Ouais. Parce qu'on lit la presse spécialisée, monsieur. On est comme ça, nous, on est des fous. On lit des magazines qui sont faits par des Anglais. Et que ça fait bien chier les mecs d'Auto Plus. Clac. Alors, on balance.
Quelque chose à dire sur Trulli? Non.
Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ça me fait plaisir.
Ouais, c'est bien.
Je sais même pas combien a fait Glock. Tu vois, c'est classement.
Glock, il a abandonné.
Il a abandonné sur quoi? Mécanique? Ah ouais, peut-être.
Eh ouais.
Mais ouais, Trulli, c'est bien. Et puis, il finit pas loin du paquet quand même, parce que...
Compte de Piqué.
Voilà, bon, Piqué qui a levé le pied, et puis bon, il est largement devant Vettel, donc... voilà. C'est Trulli, mais bon, c'est Trulli en course, donc moi, je le trouve toujours transparent, Trulli en course, donc...
Ouais.
Je vais pas t'en dire grand-chose. Là, c'est à toi de parler. Je suis désolé, mais là, je te laisse le flambeau.
Non, mais voilà.
L'attitude des merdes.
Même sur le circuit de Toyota, justement, il a tendance à être plutôt transparent en course. Bon, tu veux que je passe, hein?
Tu fais ce que tu veux. c'est plus... C'est n'importe quoi, cette émission. C'est n'importe quoi.
Le sixième est dernier top. Et là, je pense qu'on va avoir des choses à dire.
Oui.
C'est Bourdé.
Oh, pourquoi c'est Bourdé
qui a été victime de la plus grande injustice au monde.
Ouais. C'est... Parce qu'en plus, on l'a dit pour les qualifs, il fait un super week-end. Je pense que il a fait des belles performances un peu partout depuis qu'il a entre guillemets la hache au-dessus de la tête, enfin l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'avais oublié le nom du type. Et là c'est l'épée de Berger en fait.
Ouais.
Donc depuis qu'il a l'épée de Berger au-dessus de la tête, ça le fait pas. On va la rendre à Damoclès. Faut rendre à Damoclès ce qu'elle appartient à Damoclès. Ouais. Donc depuis qu'il a son épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il fait des belles courses et c'est vrai qu'on l'attendait. Moi, je l'attendais pas nécessairement à Fuji.
Et pourtant.
Dès le départ, il a été très bon. Il a fait des très bons temps aux essais. En qualif, il a été vraiment très bon. Je crois qu'à un moment donné, même il se classe sixième, je crois. Voilà. Et puis il fait une super course. Il n'y a pas d'erreur.
Il a mené trois tours.
Il a mené trois tours, ce qui n'était pas arrivé en pilote français depuis Franck Montagny.
Même pas, depuis Alési.
Je déconne.
Depuis Alési.
Ouais, donc voilà, c'est bien d'avoir un français comme ça qui figure bien. Puis ça devient régulier.
Ouais, et donc normalement, il aurait dû finir.
Septième.
Sixième. Devant Vettel.
Alors,
en plus, ça veut dire qu'il passe Vettel en course.
Attends, parce que là, il faut que j'explique, parce que j'ai un petit retour dans le casque.
Ah.
Et on a l'impression que, je sais pas, t'as fumé un truc. Donc non, hein, j'explique bien au mieux. Vous deux qui nous écoutez. Non, c'est un pépin technique. Hein. C'est une merde de Skype.
D'accord.
Donc voilà, hein, il aurait fini 6e et pas 6e. D'accord. Shinji ne se prend pas pour Jean-Paul II. Donc, on va avoir du mal à reprendre, je le sens. Ouais.
Donc, il aurait dû finir 6e.
Sauf que,
il a été pénalisé
ouais.
de 25 secondes. Honteusement.
Ouais. 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 Je te laisse expliquer parce que. Là, c'est pareil. Là, vous voyez, vous avez l'impression que Shinji, il... Mais non. Non, non. C'est Skype, encore une fois. Là, cette bobine-là va être toute pourrie. Donc, oui, Shinji, On va pas rester. Attends, je coupe parce que.
Ouais.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.
Vas-y, à toi, Shinji.
Et donc, Bourdé, qui a été pénalisé de 25 secondes, honteusement, injustement...
Scandaleusement.
Voilà, je cherchais le mot scandaleusement. Il aurait dû finir 6e, il finit 10e.
Ouais, il a pris 25 secondes.
D'une touchette avec Massa.
Ouais. Donc pour, je sais pas, enfin, voilà, enfin, je te laisse expliquer, je vois que ça te tient à cœur.
Alors, Bourdet était au stand. Il ressort des stands. Et là, c'est à ce moment-là que Massa arrive. Normalement, il est sur la piste. Et ce qui va se passer, c'est que les deux voitures vont, on va dire, prendre le virage un peu en même temps. Hein.
Et au même endroit. Ils vont prendre le virage en même temps et au même endroit.
Voilà, surtout ça, au même endroit. Et les deux voitures vont se toucher. Alors, le règlement dit que, normalement, quand on sort des stands, on n'est pas prioritaire. Donc, ils partent du principe que c'est Bourdet qui a fait la faute parce qu'il aurait dû ralentir pour laisser passer Massa. Ce que tout le monde pense, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, Bourdet est ressorti devant Massa. Normalement, comme ça arrive à chaque course, et... Donc, il se touche, et donc, c'est Bourdet qui se prend la pénalité. Mais il faut bien comprendre que donc cette touchette, en gros, deux solutions. C'est soit s'encastrer dans le mur, ce qui n'est pas très intelligent ni pratique, ou bien se sortir de la piste. Donc, quand on est fan de F1 et qu'on voit ça, c'est évident que la faute, elle est sur Massa. Massa ouais. qui aurait dit tout simplement laisser Bourdet passer devant, surtout que Massa était derrière Bourdet.
Moi,
donc il n'y avait même pas une question de rattrapage de tout.
Moi, je suis un peu plus, comment dire, un peu plus perplexe. C'est vrai que c'est un endroit particulier du circuit où on est en dévers, donc on ne voit pas nécessairement ouais. bien. En plus, je pense que, comme tu l'as dit au départ, la ligne droite de Fuji est très longue, elle fait 1,5 km. En plus, il y a la sortie des stands, la ligne qu'ils ne doivent pas franchir s'arrête très très loin, enfin très très près du virage.
Ouais.
Et donc voilà, moi je pense que c'est surtout un endroit qui n'est pas forcément propice. Voilà, ça arrive souvent qu'on ait des sorties de stand qui soient un peu serrées, où il y a une voiture qui arrive à fond, qui est dans un tour. Voilà, sur cet incident en particulier, c'est vrai que faut regarder le comportement de Massa. Massa, il se jette à l'intérieur alors qu'il n'y a aucune raison puisqu'il y a une voiture. Même si la visibilité à cet endroit-là n'est pas nécessairement la meilleure. Il voit quand même, quoi, c'est une voiture, elle fait 4 mètres de long, elle fait 2,50 mètres de large, donc normalement il doit la voir. Donc, oui, c'est sûr que la faute est sur Massa. Moi, personnellement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort, je pénalise pas. Au pire, je donne une amende au pilote à la fin. Je les réunis pour savoir ce qui se passe, voir si on peut pas améliorer les trucs. Mais c'est un peu révélateur de ce Grand Prix, juste
Au minimum, tu pénalises. Mais tu pénalises pas comme ça.
Voilà, tu pénalises pas, surtout qu'en plus, ça laisse, alors qu'on est dans un climat où on recommence à dire que la FIA aide Ferrari, on avait un petit peu arrêté de le dire, puis là on recommence à le dire. Voilà, on donne un point de plus à Massa, ça donne à tout le monde l'impression qu'on relance le championnat. Donc voilà. Donc, ouais, débile de sanctionner. Voilà, en plus, on va en tirer aucune leçon. C'est révélateur de la FIA qui punit et qui cherche pas à comprendre comment ça marche.
Oui.
Mais bon, pour une fois, ça va, ils ont pas inventé le règlement après.
Non, au moins, ils auraient pu. C'est déjà ça.
Donc voilà, donc, sinon, ouais, très très belle course de Bourdais et volé par la FIA.
Oui.
Et un peu donc, par Massa.
Ouais.
On n'est pas.
Qui ne s'est pas gêné pour dire qu'il était de bon droit, que c'est Bourdais qui avait fait. Qui était en tort.
C'est ça, il aurait dû se taire. À un moment donné, il faut
voilà,
savoir.
Voilà, il aurait dû se taire quand même.
C'est là, je pense, où il fait l'erreur, quoi. C'est l'erreur d'image. À ce moment-là, tu la fermes et tu laisses les gens dire et tu fais le silence radio. C'est là, à ce moment-là, où bah, on voit ta bêtise, en fait. C'est que tu réponds, ouais, non, mais moi, j'étais dans mon tort. Alors que tout le monde voit que t'es pas dans ton. Que j'étais dans mon droit, alors que tout le monde voit que t'étais pas dans ton droit. Donc voilà, bah, tais-toi et surtout, la ramène pas, quoi.
Alors, les flops.
Ah ouais, parce que maintenant, on a fini avec les tops.
Les tops.
On a parlé des flops. Vous avez remarqué, là, les flops, il y a deux pilotes dont on n'a pas parlé. Mais on va faire des salons, on va les garder pour la fin.
Mais oui, on les garde toujours pour la fin. Alors, en premier, on va dire un petit flop, un flop assez court, parce que sa course a été courte, c'est Coulthard.
Ouais, alors là, honnêtement,
qui encore une fois nous a offert une, j'ai envie de dire, une belle sortie de piste. On a envie de dire, David, heureusement qu'il ne reste plus que deux courses. Hein.
Et moi, je t'avouerai, j'ai pas compris pourquoi t'as mis Coulthard.
Bah, c'est. Les flops, c'est pas simplement parce qu'on les aime pas, c'est parce que un pilote fait une mauvaise course. Coulthard, c'est quand même pas la première fois qu'il explose sa voiture contre le mur.
Mais moi, j'ai pas l'impression que Coulthard ait fait une mauvaise course.
Et il a pas fait de course, justement.
Voilà, c'est ça le truc, il a pas fait de course. Et pourquoi il a pas fait de course?
Parce qu'il s'est explosé contre le mur au premier virage.
Et comment il s'est explosé au premier mur contre le virage? Il faut remonter, voilà, sur Coulthard. Faut remonter aux sources de tout problème, et la source de tout le problème, c'est que on l'a appris après, tous les pilotes au premier virage ont été surpris par l'adhérence. Ils pensaient pouvoir freiner plus tard, et en fait, non, ils pouvaient pas. C'est ce qui a fait les erreurs de Hamilton. Et puis voilà, la grosse erreur d'Hamilton dont on va parler après, elle fait freiner le peloton, elle crée voilà un tassement du peloton, elle crée des frictions. Donc voilà, il se fait sortir, je crois que c'est par Nakajima.
Oui.
Donc moi, non, je dirais pas que c'est une mauvaise course de Coulthard. Il a pas pu la faire parce que voilà, il est allé dehors. C'est vrai qu'il a fait des grosses sorties cette saison. C'était peut-être à la limite la saison de trop qu'il fallait pas faire parce que on a toujours peur un pilote quand il commence à avoir trop d'accidents comme ça, on commence à se faire dessus pour lui. Mais là, non, je pense que là-dessus, il a pas grand-chose à se reprocher, quoi. C'est un départ, ça arrive. Hein. Donc voilà, là je te trouve méchant.
D'accord, c'est pas être méchant avec le pilote, c'est flop parce que voilà, il a raté sa course. C'est pas forcément de sa faute. Là, c'est pas de sa faute, c'est son.
Voilà, moteur. C'est pas de sa faute.
C'est vrai que si vous voulez être précis, on dirait flop contre le moteur Mercedes.
Voilà, ah oui, bah oui, alors là, si on parle de Kovalainen, ouais.
C'est ça, hein, c'est le moteur. Ce qui est bien rare quand même, un moteur qui claque avec les limitations de puissance.
Mais en plus, alors c'est à l'origine une polémique. Parce qu'on se rend compte cette saison que il y a deux équipes qui ont cassé des moteurs, plus que les autres. C'est McLaren et surtout Ferrari. Et il se murmure que McLaren et Ferrari auraient joué avec les limites du règlement pour continuer de développer leur moteur malgré le gel.
Parce que tout le monde part
du principe que voilà, si on gèle les moteurs, on n'y touche plus, ouais. Donc la fiabilité, bah, elle s'améliore. Ça fait quand même, je crois, 2 ans que les moteurs sont gelés. C'est la deuxième année. Donc
ça
voilà.
On voit bien qu'il y a moins de casse-moteur.
Voilà, dans toutes les petites écuries, il n'y a pas de casse-moteur. Et voilà, assez bizarrement, on a Ferrari qui casse des moteurs. Voilà, là, on a eu une belle casse-moteur. Ça nous manquait.
Bien que ça n'a pas été les grandes casse-moteurs flamboyantes d'avant, hein.
Ouais,
ça avait un panache de fumée sur 15 mètres. Donc on va passer au gros morceau maintenant. Au gros,
oui.
gros double morceau. Double ration, double tranche, tout ce que vous voulez.
Moi je dirais que c'est pas deux flops qu'on va parler, mais c'est un flop.
Ouais.
C'est le flop des favoris.
Ouais.
Les mecs qui doivent avoir les épaules pour se battre pour le championnat et qui font deux courses, mais comment dire, deux
minables.
Courses débutants. On va peut-être commencer avec. On va être gentil, on va commencer avec Hamilton.
Ouais, bah en même temps, c'est lui qui a eu le premier incident, donc.
Voilà, et puis bon, c'est peut-être en même temps celui dont on a peut-être envie le moins de se moquer.
C'est vrai.
Ouais, voilà, donc Hamilton, on a parlé de son problème à il se rate au départ. Et
Il se
là,
rate, il se fait doubler par Raikkonen.
va savoir
Et là.
pourquoi. Il est deuxième ou troisième à ce moment-là dans les
Ah
échappements.
oui, il a
Et
tout le temps de revenir, il n'y a pas de problème, hein.
il veut reprendre sa première place.
C'est avant même le premier virage. Bon, c'est vrai que la ligne
C'est.
droite est longue, mais quand même.
Voilà, on se demande pourquoi il veut reprendre sa première place. Certes, il l'a perdue, mais il la perd face à Raikkonen,
Il perd
en
contre tous les
sachant
deux.
que lui et Kovalainen sont potentiellement 2 et 3, et que Massa va être 4 ou 5. Donc voilà, il n'y a pas nécessairement une grosse perte de points pour McLaren. Il joue même pas le championnat constructeur parce qu'il n'y a pas de gain pour Ferrari. Il n'y a pas de perte pour lui puisqu'il perd face à Raikkonen et il perd face à personne d'autre. Et là, voilà, il se met dans l'échappement, il se décale sur la droite, au risque d'envoyer Kovalainen dans le mur, quand même. C'est Stewart qui en a parlé, qui a fait une interview où il a dit encore heureux que ça ait touché personne, parce qu'un jour, et c'est vrai qu'un jour, avec ce comportement un peu, moi j'avais parlé de comportement égoïste, autiste sur la piste, parce que voilà, il ne voit que lui, il est, voilà, il est dans sa bulle sur le circuit, et là, c'est vrai qu'on en a eu un parfait exemple, quoi.
Bon, ça aurait pu être très grave, hein, quand même. Donc, il double, il change de ligne, ça va heureux, va très bien réagir, c'est-à-dire qu'il va lui-même se décaler. Il touche quand même Kovalainen. Hein, il a dit, hein, la Ferrari, elle est touchée pas par Hamilton, mais par Kovalainen. Il embarque en même temps Massa.
Parce que voilà, comme ils ont tous voulu freiner tard. Et
Voilà.
Hamilton a voulu freiner plus tard que les autres. Donc, déjà qu'ils étaient tous un petit peu en perte d'adhérence parce qu'ils étaient surpris par le niveau d'adhérence qui était plus faible que ce qu'ils attendaient. Lui, il a freiné plus tard, il a été encore plus surpris par l'adhérence. Les autres ont eu le temps un peu de se préparer et puis lui, non. Donc, ce qui fait qu'il a continué tout droit et dans le virage, impossible à Raikkonen de le dépasser, impossible à toute la ligne extérieure de le dépasser. Donc, c'est Raikkonen, c'est Massa. Donc voilà quoi, il s'est auto-disqualifié de la course et il se disqualifie les autres.
Et donc ça a pas tardé, les commissaires, bingo, pénalité. Alors on peut pas discuter encore une fois, est-ce qu'il fallait qu'il y ait pénalité ou pas? C'est vrai qu'il y a déjà eu des départs un peu houleux en Formule 1
Voilà,
où on mettait pas de pénalité.
c'est la question. Moi, c'est.
Faut le dire.
Moi, je trouve que c'est mon avis personnel, mais on est sur un départ de Formule 1. On est au bout de la ligne droite. Bon, c'est pas, on n'a pas fait toute la ligne droite où on est, comme tu l'as dit, à 310. Mais là, on doit être à, allez, à
Ouais, mais moins quand même.
260, 280. C'est un départ. Il y a 20 voitures. Je pense que la manœuvre qu'il a faite au troisième ou quatrième tour, alors qu'il y a 2 secondes d'écart avec le mec derrière et 2 secondes d'écart avec le mec de devant. Bon, voilà, c'est un incident de course, ça arrive. Là, c'est une manœuvre qui est faite dans le premier tour. Tout le monde est là. Ça risque de provoquer une pagaille énorme, voire un carambolage.
Et il ruine la course de
Voilà,
Raikkonen.
c'est pas seulement du
Parce qu'il
pilotage.
était premier Raikkonen.
Oui, en plus, c'était prévu. Puis s'il partait, il pouvait être sur un bon rythme et puis motivé comme il aurait été motivé.
C'est peut-être la pénalité la plus tangente.
Ouais.
C'est-à-dire que il y en a qui disent ils ont eu raison, d'autres qui disent non non
Voilà,
ils
moi
ont
je
pas
pense
il y en
qu'ils
a
ont
pas
raison
dû.
parce que ceux qui disent ils ont pas eu raison, ils font toujours comme tu l'as dit. Voilà, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'incident au départ, etc. Mais justement, moi j'estime que parce qu'on est dans un départ, qu'on est dans une phase sans doute la plus chaude
Ouais.
course, je pense qu'à ce moment-là, tout ce genre de comportement, on avait déjà fait une règle pour Schumi pour éviter que les mecs changent de file plusieurs fois pour bloquer les gens, parce que c'est pas sur le départ qu'on fait ça. Je lisais l'interview de Stewart et Stewart disait, voilà, on gagne pas un Grand Prix sur un départ, mais on le perd. Et voilà, c'est ça le truc.
Bah, il l'a perdu.
Là, il a perdu un Grand Prix, et puis ça se trouve, il a peut-être au final perdu le championnat, parce qu'il perd 10 points. Il en perd peut-être même 8.
Oui.
Donc,
puis c'est vrai qu'en plus, avec son passif un peu cette saison, où il a quand même été parfois très agressif...
Bah, on se souvient de Monza, moi.
C'était peut-être le moment ou jamais, quoi, parce que... Faut pas que ça continue, parce qu'on sait que si c'est pas là, si on le laisse faire, ça peut devenir grave à l'avenir.
Oui, parce que, c'est, voilà, un jour, pour le moment, on a vu, moi, ce qui m'a choqué, c'est d'entendre McLaren à la fin de la course, qui comprenait pas, mais est-ce qu'ils ont parlé seulement à Kovalainen, quoi? Est-ce que Kovalainen leur a dit, ouais, mais attendez, moi, j'ai quand même dû faire un écart de 2 mètres, parce que monsieur voulait passer. Alors qu'on est sur un départ, alors que moi, je risque de me taper les mecs de derrière, que parce que je vais me serrer la corde. C'est moi qui vais être à la corde, c'est moi qui risque de me tamponner le mur. Voilà, alors c'est pas la manœuvre la plus dangereuse de la course, mais non. Sur un départ, voilà, tu perds une place, un départ que tu perds ou tu gagnes des places, c'est le jeu. Tu fais un mauvais départ, tu fais un mauvais départ. Mais bon, voilà, faut pas non plus essayer tout de suite à regagner, il n'y a aucun intérêt. Il y a la course après, il y avait 64 tours, je crois. Ouais. Donc ça pouvait attendre. Puis de toute façon, comme je disais, il est derrière Raikkonen. Raikkonen, c'est pas un danger au championnat. Donc,
Ça a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est que, comme on disait, il avait 7 points d'écart
ouais.
au championnat. Donc normalement, en plus, il n'avait pas à prendre tant de risques.
Oui,
l'important pour lui, c'est de gérer.
On se demande,
Et là, on a l'impression que finalement, il n'a pas beaucoup évolué depuis un an et qu'il va peut-être nous refaire le même coup que l'an dernier, c'est-à-dire perdre le championnat.
Alors qu'il lui est promis.
Du bout des doigts.
Mais c'est ce qui participait, c'est ce qui contribue aussi à la tension dont on parlait sur Massa. On avait vu à Singapour qu'il était quatrième à Hamilton et qu'il avait géré sa quatrième place. Il pouvait attaquer Rosberg, il pouvait faire le fou, mais il avait conscience qu'il était à Singapour, qu'il fallait pas faire le couillon et que voilà, c'était 5 points de prix et que 5 points, dans l'optique du championnat, c'était bien. Là, malheureusement, il a fait mauvais calcul, quoi. C'est pas parce que t'es pas sur un circuit urbain, mais tu risques quand même de perdre des points.
Ouais. Et en plus, il a été victime de la faute de Massa, puisque juste après, donc tu parlais de la chicane hein, quand.
L'espèce soit de la chicane au début.
Le 10e ou 11e virage.
Au début de la remontée, au début de l'ancienne parabolique.
Il va se faire percuter par Massa.
Ouais. Alors, faut revenir un peu avant parce que, ouais. Comme on lit, donc ça se passe au deuxième tour. Il y a déjà eu un tour découlé. Voilà. Et c'est vrai que Hamilton a perdu pas mal de place à ce moment-là de la course. Je crois que Massa doit être 6 ou 7. Hamilton doit être. Ouais. Il est juste derrière.
Et
c'est vrai qu'on sent quand même. On sent Hamilton très remonté. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi à l'origine une deuxième bêtise de Hamilton. Même si ça n'écarte pas la bêtise de Massa. Mais on a quand même Hamilton qui va faire un dépassement quasiment instantané. Il arrive dans l'échappement de Massa et hop, je le dépasse. Alors que une demi-seconde devant, il y a la Toyota de Trulli et qu'on arrive à un gros freinage vers une épingle. Donc à ce moment-là, voilà, il est encore un petit peu... c'est un dépassement musclé, c'est un très joli dépassement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, on a Massa qui cherche à faire quelque chose. Et puis là, Massa, il pète totalement les plombs.
Et il va rentrer dans l'arrière d'Hamilton. Heureusement pour Hamilton, l'arrière de la voiture, ça ira. Mais il fait un 180.
Voilà, et il se retrouve...
sauf que comme toutes les voitures passent...
Bah oui, on est au deuxième tour. Hein.
Justement, on est au deuxième tour, toutes les voitures sont à la suite. Il a dû attendre que toutes les voitures passent pour repartir.
Mais ça rejoint justement ce que je disais par rapport au départ... Dans les premiers temps de la course, c'est vrai que c'est l'endroit où il faut attaquer parce que justement les écarts sont faibles, mais c'est aussi les endroits où il faut pas attaquer n'importe comment. À la limite, le dépassement de Massa sur Weber, bon, il est très irrégulier, il est très beau mais très irrégulier. Mais voilà, il y a personne devant, il y a personne derrière. Le seul côté inconscient de Massa, c'est de se mettre lui en danger et de mettre Weber en danger. Là, dans les premiers tours, faut penser que non seulement tu vas te mettre toi en danger, tu vas te mettre le mec que tu doubles en danger, mais que les mecs qui sont derrière vont arriver, vont pas forcément avoir le temps de réagir. Parce qu'ils sont à 1 ou 2 secondes. Ouais. Donc voilà, c'est Hamilton a voulu remonter trop vite. Voilà, donc moi c'est la faute d'Hamilton que je vois. Après, je distingue bien la faute d'Hamilton avant le virage et celle de Massa qui est très flagrante après le virage. La faute de Massa... c'est une faute, c'est pas volontaire. Hamilton a dit qu'il avait fait exprès, etc. Massa n'a aucun intérêt de prendre le risque de foutre Hamilton dehors en sachant que lui peut y laisser une suspension, peut y laisser un aileron, peut y voiler sa roue. Donc voilà, c'est dire ça, c'est bête quoi. Moi, je pense surtout que c'est un mec, comme on l'a dit, c'est aussi un peu pour ça qu'on en a parlé. C'est un mec qui est dans un contexte psychique et mental très très particulier où il calcule, ah, j'ai 7 points de retard, faut pas que je lui laisse. Il sait qu'il est très fort, Hamilton. Il sait qu'à la régulière, Hamilton, il peut pas le battre. Donc il se dit, voilà, faut que je saisisse n'importe quelle occasion. Là, il me double, mais en plus, Hamilton, enfin, il le double, c'est une humiliation, quoi, qu'il lui fait subir. Il se foire au premier virage, et là, il va le doubler. Massa, il finit déjà 5e la veille. Il arrive là, il se fait moucher par Hamilton. Il la sévère en travers de la gorge. Il veut reprendre sa place. Et c'est là où il perd un plomb, quoi. C'est là où il agit pas comme un potentiel futur champion.
Bah là encore, les commissaires sont tombés. Et donc, 25 secondes, il y a un drive-through pour Massa.
Mérité, hein.
Là, pour le coup, tout le monde dit c'était mérité, hein. Et donc, tu disais, Massa, il a un peu pété un plomb. On l'avait rarement vu, voire jamais vu comme ça. Faut bien le dire.
Ouais.
Et donc, c'est quelques tours plus tard. Alors, je sais plus quand.
Ouais, le dépassement sur Vettel. Sur Weber.
Il devait dépasser Weber. Et là, c'est allé un peu au-delà de toute logique. C'est-à-dire que n'importe quel autre pilote aurait fait différemment. Donc, c'est au niveau de la ligne droite. Et donc, au lieu d'essayer de dépasser Weber par l'extérieur...
Oui, parce que Weber se tasse d'un côté. Il voit quand même que Massa essaie de dépasser à l'intérieur. Donc, il tasse vers l'intérieur. Et là, la logique... même tout spectateur de course automobile sait très bien que le mec se tasse à l'intérieur, bah tu le prends en escarmouche et tu l'attaques par l'extérieur.
Oui.
Sauf que là, Massa,
au lieu de choisir l'extérieur,
il a pris l'intérieur.
Il a choisi l'intérieur.
Il a même fait choisir le mur.
Oui, parce que sur l'intérieur, il y a des beaux zébras, hein, pour dire attention, là, c'est la limite de la piste. Et il a roulé.
La sortie des stands.
Ouais, la sortie des stands.
Puis il roule dessus, enfin, il dépasse, pour bien décrire le truc, enfin, il le dépasse à l'intérieur dans un trou qui doit être, allez, il y a la place pour passer une Formule 1, mais faut vraiment pas que les pneus soient larges.
Ah, oui.
Ils sont à 290, ils sont même à 310 à l'heure.
Ah, bah là, ouais, là, ils sont.
Ils passent donc, ils frôlent le mur, ils frôlent une Formule 1 qui elle aussi à fond. Qui vient de se tasser sur la droite, donc est peut-être un petit peu d'inertie, et peut-être que le pilote est en train de contrôler sa voiture. Il roule sur des zébras, ce qui est pas nécessairement prudent par temps sec et par temps mouillé encore plus. À la sortie des stands,
donc possibilité qu'une voiture sorte des stands.
Voilà, donc là c'est extrêmement dangereux. Moi j'ai trouvé le dépassement magnifique. Si on prend
sur le coup,
dépassement,
c'est beau. Voilà, sur le coup c'est très beau.
C'est faux, etc. Mais quand on réfléchit aux conséquences, on se dit voilà, le mec, il est plus dans la voiture à ce moment-là. C'est
si
voilà.
Si s'était passé quelque chose, le championnat de Massa serait fini parce qu'il serait à l'hosto.
À la fois, c'est très beau à regarder. Moi, ça m'a rappelé qui était aussi polémique, le dépassement à Spa de Hakkinen sur Schumacher alors que Zonta est en plein milieu.
Ouais.
C'est un truc magnifique à regarder, mais c'est aussi extrêmement dangereux, quoi. Tu fous un pilote qui roule plus lent que toi, vous le dépassez à deux pour vous doubler juste devant. Voilà, là c'est pareil, je pense que c'est un dépassement qui restera dans la mémoire. Mais là, sur ce coup-là, il doit même pas être pénalisé, quoi. Il doit être exclu de la course. C'est
d'ailleurs, on citait l'exemple de Senna au Japon.
Ouais. En 88, 89.
Alors, il avait été pénalisé ou carrément exclu ?
Il avait été exclu de la course parce que en dépassant Prost, il avait mordu, enfin, il avait dépassé la ligne blanche.
Voilà.
De la fin des stands. Juste la ligne blanche de fin des stands. Il avait été exclu de la course alors que normalement c'est une pénalité. Et là, Massa, non seulement il n'est pas exclu, mais en plus à la fin, on a l'impression qu'on lui donne un point de plus.
Ouais.
Donc. Voilà, moi j'aimerais que Massa soit. J'ai toujours dit, moi je veux que Massa soit plus agressif, que je veux qu'il se sorte un petit peu les doigts du nez, hein, enfin, pour pas dire les doigts du cul. c'est moi qui sorte un petit peu les doigts du cul en course, quoi, quand il est derrière, qui se batte pour les places, plutôt que de végéter. Et là, bah non, là, il n'a pas végété, là, il était ailleurs, quoi. C'est, il était déjà sur le podium. Il voulait absolument faire un bon résultat, alors qu'il aurait pu assurer des points, quoi. Et il a fait pareil sur Bourdais, on a parlé de l'accident de Bourdais, il a fait exactement pareil. Oui. C'est même pas de l'optimisme, quoi. C'est, il a oublié le pilote, quoi. Il a oublié que il y avait d'autres voitures. C'est autant on sait que Hamilton, c'est dans son comportement d'être, et je dirais pas égoïste, mais voilà, il est sûr de lui. Mais là, Massa, c'est pas son habitude, quoi. Donc ce mec, il a totalement pété les plombs. En espérant que ça se reproduise pas, en espérant qu'il apprenne.
Non. Alors, est-ce que tu veux rajouter un mot sur la FIA?
On peut conclure, je pense, sur la FIA. Ouais. C'est, faut, bah, eux, au contraire, tu vois, autant Massa, faut qu'ils se retirent les doigts du cul. Eux, je pense qu'il faut qu'ils les rentrent.
C'est,
faut qu'ils arrêtent de se mêler de n'importe quoi.
C'est vrai.
Voilà. Il y a trois commissaires, ils sont, c'est jamais les mêmes. Donc, ils prennent jamais les mêmes décisions. On avait Massa qui s'est fait pénaliser de 10 000 euros d'amende à Valence pour avoir embarqué son tuyau d'essence, enfin, avoir failli sortir dans les stands Sutil. Et à Singapour, il se prend un drive-thru alors qu'il a failli sortir Sutil. Donc déjà, ouais. Les mecs, ils sont pas cohérents. En plus, ils interviennent pour tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire sur le blog de Lionel Froissart, qu'on conseille tous les deux à tout le monde.
Oui.
Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que il a imaginé une course de Formule 1 dans quelques années, et en disant Kimi Raikkonen, il reculerait de 5 places sur la grille de départ parce qu'en allant se positionner sur sa place, il a jeté un regard noir à Hamilton.
Ce qu'il a fait.
Voilà. Donc à un moment donné, on va en arriver à ces excès-là, quoi. Que les comportements dangereux soient, c'est pour ça à la limite que moi j'avais tendance au départ à dire voilà qu'on punisse Hamilton pour son départ, d'accord, c'est totalement mérité. Massa, oh, c'est un incident de course, mais c'est pareil, c'est dans le deuxième tour, il y a du monde, c'est dangereux ce qu'il fait. Il doit être exclu de la course pour son incident, c'est très bien. Mais qu'on aille pénaliser Hamilton parce que il rend pas sa place, bon d'accord, c'est polémique, mais pour donner la victoire à Massa derrière, qu'on aille pénaliser Bourdais là de façon totalement stupide. Alors que même si Bourdais il est en tort, les voitures elles sont reparties, elles n'ont pas perdu de place, elles n'ont pas perdu nécessairement de temps.
Non.
Elles n'ont pas eu de dégâts. Donc voilà quoi, c'est à un moment donné, faut que la FIA arrête quoi. Faut que la FIA rende la Formule 1 à la Formule 1, qu'elle laisse un petit peu les gens de la F1 le faire. J'ai lu d'ailleurs une proposition sur un blog qui proposait que on définisse donc 3 juges pour toute la saison.
Ouais.
Ou par série de courses, genre par exemple 3 juges pour la tournée asiatique.
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Ou 3 juges par type de circuit, par exemple les circuits urbains, ce seront toujours les 3 mêmes juges. Mais qu'on en donne un à choisir parmi les pilotes, donc c'est les pilotes qui choisissent le juge. Un autre choisi par les écuries. Et un autre choisi par la FIA.
A priori, oui.
Là au moins, je pense qu'il y aurait du débat. Je pense que les pilotes auraient choisi... pourquoi par exemple pas mettre dans le carré des commissaires, le président du GPDA. On a De La Rosa, là, on a l'occasion d'avoir un président de l'association des pilotes qui n'est pas en piste.
Oui, donc.
Pourquoi est-ce qu'on lui dit pas, écoute, tu vas avec les commissaires et tu défends les pilotes à ce moment-là. Peu importe la couleur de l'écurie ou de quoi que ce soit. Mais voilà, même si c'est 3 commissaires qui changent tout le temps, qui sont nommés par la FIA et qui connaissent rien à la Formule 1, qu'il y ait un pilote pour leur dire, mais non, mais là, le punissez pas, quoi. C'est bon, ils ont rien, laissez-les vivre. Donc voilà, c'est un peu gênant. C'est voilà, la FIA se met à, quand elle se met pas à inventer des règlements après la course, elle se met à appliquer trop d'éléments ceux qu'elle a déjà écrits. Donc c'est énervant.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde est énervé.
Là oui, pour le coup. Donc, et pas qu'en France, hein. Faut dire pour Bourdais, il n'y a pas qu'en France que ça.
Ouais, tout le monde. En plus, voilà, c'est ça qui est cruel. Enfin, c'est comme la FIA. On en avait parlé lors du dernier SAV. La FIA qui fait poireauter McLaren et Hamilton jusqu'au mardi pour donner la décision en leur disant votre requête n'est pas recevable. Vous pouvez pas le dire le lundi. Donc, s'il n'y a pas de respect, là, on n'a pas de respect pour le pilote, quoi. Le mec, il est en train de jouer sa place dans l'écurie. Ces 3 points-là, c'est peut-être que 3 points, mais il en a besoin. Il en a peut-être même plus besoin que Felipe Massa. Et là, bah, ce mec-là, alors c'est sûr, l'écurie va pas le juger sur les points. Mais ce mec-là, il est souvent pénalisé, il a souvent des pépins, et donc il est en train d'acquérir une réputation de chat noir. Et on sait très bien qu'en Formule 1, même si c'est pas flagrant, mais il y a un petit peu de superstition. Personne ne veut la voiture 13, par exemple. La voiture 13, elle n'existe pas. Donc c'est
Bah
qu'on est quand
non.
même dans un milieu, on est quand même dans un milieu superstitieux. Et là voilà, tu vas voir arriver un pilote, tu te dis merde, même quand tu me fais une sixième place, il est disqualifié. Donc c'est voilà, le Bourdais, il est en train d'acquérir une place de chat noir et c'est franchement pas lui rendre service alors qu'il joue sa place. C'est une FIA qui ne juge que l'avant de la course et qui ne juge pas l'arrière.
Ouais.
On lui demande de juger toute la course, pas seulement l'avant ou l'arrière. Putain, j'ai été fort là.
Ah là, oui.
La FIA, si tu m'entends, on va te casser ta gueule. Voilà, on va venir en Chine avec Enzo et avec Shinji, on va te casser ta gueule. Et même Tsuki, si elle veut se joindre, tu vas voir, on va te casser ta gueule.
On finit par le classement?
Oui, le classement. Je suis pas dessus.
Non mais j'y suis moi.
Ah.
Ah.
Bah
Alors
alors, le
premier
classement.
Fernando Alonso.
Ouais, en 1h30 minutes 21 secondes.
202 km de moyenne.
Voilà, belle moyenne.
Oui, belle moyenne. Ouais. Deuxième Robert Kubica. Troisième Raikkonen, le podium. Ensuite quatrième Piquet. Cinquième Trulli. Sixième Vettel.
Avec le
Septième
dépassement de Bourdais.
voilà. Septième Massa. Huitième Weber. Neuvième Heidfeld. Donc tout ça, ça remonte d'une place puisque Bourdais est dixième.
Alors, Weber qu'on aurait pu mettre dans les tops. Parce
Ouais.
qu'il marque quand même les premiers points de Red Bull depuis un petit temps. Et en plus,
Au détriment de Toro Rosso.
c'est ce que je t'en parlais en plus hier. On a dit que la pénalité contre Bourdais allait aider Massa. Mais on oublie aussi de dire qu'elle aide aussi Red Bull. Parce que là, Red Bull, si la pénalité restait, il perdait encore 5
Ouais,
points sur Toro Rosso. Là, ils en perdent que 2. Weber en marque 1, Vettel en marque 3, donc ils perdent que 2 points. 2 points et 5, c'est pas pareil. Donc
alors,
je te laisse finir le classement.
Rosberg 11, Hamilton 12, donc
Dernier
là,
dans le
c'est vrai que
tour.
ça pénalité. Barrichello 13, Button 14, Nakajima 15. Et donc après, c'est les abandons, ceux qui sont non classés. Donc Fisichella, il a abandonné au 21e tour, boîte de vitesse.
Ouais.
Kovalainen au 16e, son moteur. Adrian Sutil au 8e sur crevaison. Glock, 6e tour, mécanique. Ça, c'est bateau, hein.
Ouais.
Mécanique.
Je sais même pas ce que c'est.
Et donc Coulthard, alors ils ont mis zéro, mais c'est dans le premier tour. Hein.
Voilà.
Alors ils mettent accrochage, moi je dirais mur surtout.
Et à signaler que bah c'est pas ce week-end que Kimi Räikkönen a battu le record de meilleur tour dans une saison,
Non,
puisque
pour une fois, ça n'est pas lui.
c'est Felipe Massa qui l'a signé, confirmant en plus tout son potentiel pour le Grand Prix quoi, comme quoi il avait franchement pas à s'exciter, franchement pas à paniquer. Et puis encore une fois, pour revenir vite fait, on peut aussi dire que Ferrari aurait peut-être dû dire à Massa, écoute. Nous, on pense que sa manœuvre au début du Grand Prix, ça va lui valoir une pénalité.
Ouais.
Ça sert à rien de défendre ta place chèrement. De toute façon, il va se retrouver derrière toi.
Voilà, tu vas gagner des points, il n'y a pas de problème.
Voilà. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais voilà, Massa a confirmé qu'il était l'homme fort de Ferrari en
Ah
qualification,
oui, bah ça, ouais.
essais et en course. Donc, au championnat, ça nous
Ah,
resserre un.
juste une précision, puisqu'on n'est
Oui.
plus qu'à deux courses, ça veut
Oui.
donc plus dire que 20
Vas-y,
points.
dis-nous cette chose.
Non, mais on va le dire. On va...
Voilà,
Oui, je sais. Non, non, c'est à toi de le dire, parce que moi, je suis pas
alors
capable.
on va vous le dire, c'est officiel. Avec 21 points de retard sur le leader, Kimi Räikkönen perd son titre. Voilà.
Voilà, parce qu'il n'y a plus que 20 points.
Mais Shinji est optimiste pour 2009. Hein?
Mais oui, je vous l'ai
C'est un
dit.
pair.
Année paire, année impaire, année paire.
Donc au classement, on a
20 points pour les championnats pilotes et 36 points
pour
pour les
championnat.
championnats constructeurs. Non, ça devient important, là, le maximum de points.
Ouais, là, ça commence à calculer. Et à signaler aussi que on fera ça après le classement. Lewis Hamilton a donc 5 points d'avance devant Felipe Massa.
Plus que 5 points. Il était mieux placé il y a un an.
Ouais.
En comparaison.
Mais il peut quand même être titré dès le Grand Prix de Chine.
Hein, il finit sur le podium et puis après ça dépend bien évidemment.
Absolument qu'il finisse sur le podium parce que même une quatrième place et abandon ou Massa hors des points, ça lui offrirait que 5 points.
S'il est troisième, il faut que Massa soit hors des points.
Voilà, mais parce que si Hamilton finit quatrième, il marque 5 points.
Ouais.
Massa hors des points, il en marque 0. Donc Hamilton aurait 10 points d'avance.
Voilà.
Et si Hamilton abandonne au Brésil et que Massa gagne, comme ça pourrait se diriger, là, les deux sont ex aequo, et dans ce cas-là, Massa gagnerait au nombre de victoires.
Ouais. Mais il n'y a que Hamilton qui peut être titré. Hein,
voilà. Donc pour moi, il n'y a que Lewis qui peut être titré. Donc 84 points, deuxième Massa 79. Robert Kubica qui revient à grandes enjambées.
Il est à 12 points.
À 12 points de
Hamilton. Hein. 20 points de retard, 12 points, quand on connaît Hamilton.
Il faut quand même rappeler que la saison dernière, à deux courses de la fin, que Raikkonen avait 17 points de retard.
Ouais.
Et qu'il a gagné le titre pour un point. Donc avec un scénario à peu près identique, Kubica pourrait gagner le titre pour 6 points. Donc ça fait quand même 6 points de marge où il peut gagner quelques petits trucs. Bon, Raikkonen avait gagné les deux courses. Mais voilà, avec des circonstances particulières, ça peut être jouable. Donc après Kimi Raikkonen 63 points, Nick Heidfeld 56, Kovalainen 51. C'est d'ailleurs ce qui coûte cher à McLaren.
Oui.
Fernando Alonso s'installe tranquillement à la 7ème place et pourrait même conquérir la 6ème.
La 6ème, oui, tout à fait. Voire même, pourquoi pas la 5ème.
La 5ème, hein. C'est pas impossible.
Il y a 8 points hein, d'écart. Hein.
Vettel est à égalité avec Arnaud Trulli.
30-30.
Et derrière, voilà.
Peut peut-être y avoir encore un échange de place entre Weber et Dlock. Il n'y a qu'un point d'écart.
Ouais. Et puis, dommage pour Bourdais, parce que Bourdais avec 3 points aurait pu se porter à la hauteur de Coulthard.
Ouais.
Et pourquoi pas finir devant Coulthard à la fin de la saison, ce qui aurait pu être possible. Voilà, donc on peut quand même espérer une meilleure victoire, mais voilà, on aurait eu les deux pilotes Toro Rosso devant les deux pilotes Red Bull, ça aurait été bien.
Archer et constructeur, Ferrari reprend la...
Youhou !
Pour 7 points. Là, ils ont fait un bon score quand même, Ferrari.
Ouais, ils ont fait, ouais. Ça fait 8 points qu'ils ont pris.
Ouais,
et McLaren, 0. Donc,
0. BM,
2 points, 135 pour McLaren. BM, oui, qui peut, encore une fois, qui peut jouer le titre, quoi. Ils sont à 14 points.
Peut-être pas le titre, mais pourquoi pas shipper la deuxième place. Quatrième Renault, c'est quasiment assuré maintenant.
Oui, parce qu'ils ont 16 points d'avance.
16 points d'avance.
Il faudrait que Toyota gagne des courses ou vraiment que Renault s'effondre et que Toyota fasse des bonnes prestations.
De même que Toyota a 16 points d'avance sur Toro Rosso.
Voilà.
Aussi, a priori, ça ne devrait pas bouger.
Voilà. Toro Rosso, 34 points, 5 points devant Red Bull avec 29.
Ça
aurait pu être plus grave.
Ça aurait pu être plus grave.
Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de discussion d'équipe à équipe pour les deux prochaines courses. Voilà. Bon, tout le monde sait que c'est les mêmes châssis, donc je pense que Red Bull en sera tout de même satisfait. Williams avec 26 points. Faut se méfier de Williams.
Ah, 3 points, c'est vite pris.
Même si, on peut être pessimiste sur les deux prochaines courses.
Ouais.
Et Honda qui a quand même 14 points.
Mais il y en a quand même. Ils ont marqué des points.
Mais voilà, eux au moins, ils ont marqué des points.
Parce que Force India, ils espèrent. Pour leurs deux dernières courses, au moins marquer un point.
Ouais. Ils vont chier.
Ouais.
Ils vont avoir du mal. Alors, faut disqualifier 5 ou 6 pilotes.
Facile, hein.
Et voilà.
Faut vraiment qu'ils fassent des trucs monstrueux.
Mais donc voilà pour le classement. Ça nous promet quand même encore une lutte peut-être encore plus excitante parce que c'est une lutte à 3 dans les deux championnats. Même si. Kubica et BM sont un peu en retrait, mais voilà.
Pour les constructeurs, ça se jouera sans doute au Brésil, hein. Vu l'écart.
Sauf grosse situation, mais théoriquement, ouais. C'est comme tout le temps, les constructeurs se jouent généralement après, soit en même temps, soit après le pilote.
À moins que Ferrari se pointe que McLaren.
À moins que Ferrari.
C'est toujours possible.
Oui.
C'est toujours possible.
Oui, possible, hein. Et s'ils font un doublé, même ne serait-ce qu'un doublé de podium, et que ouais. McLaren ne fait rien ou fait juste un point, c'est pas possible. En plus, en cas d'égalité, toujours au nombre de victoires, ils seraient devant.
Ouais,
donc voilà. Donc voilà pour le classement pilote et constructeur. Prochain rendez-vous, c'est ce week-end, une semaine
oui,
après.
Déjà, il y a qu'une semaine, voilà.
Ah, à Shanghai.
À Shanghai.
En Chine, donc. A-t-on besoin d'en parler?
Alors, c'est vrai que t'es mitigé sur circuit.
Moi, j'avouerais que j'adore le premier virage.
Ah, le premier virage, ouais, c'est
cette espèce d'escargot où tous les pilotes disent, voilà, vous rentrez dedans, vous savez jamais quand vous allez sortir. Et le reste du circuit, voilà, c'est des grandes courbes. Moi, j'ai rien qui me passionne dans le reste du circuit. Oui, la dernière portion, là, l'espèce de petit zizi, là, à la fin. Avec la grande ligne droite, où généralement, effectivement, un peu à l'image de on pourrait avoir d'ailleurs à cet endroit-là des incidents, un peu type, ce qu'on a eu à Fuji, avec cette grande épingle au bout d'une longue ligne droite. Et puis la possibilité de se récupérer sur le virage d'après avant les stands. Voilà, j'attends pas grand-chose du Grand Prix en tant que course.
Et alors, un petit pronostic ?
Ah, un petit pronostic, merde, je vais mettre qui ?
Et ben, moi, je verrais... Vas-y.
Moi, je verrais bien... Je verrais bien... Est-ce que je le tente ? Allez, vas-y. Je vais le tenter, je vais dire, j'en donne deux, hein. Un réaliste et un fantasmé. Je dirais soit Kimi Raikkonen,
ouais.
Parce que je pense que il est sur une bonne dynamique et qu'il est en train de reprendre un peu du poids de la bête. J'adorerais Robert Kubica.
Ah.
Parce que Robert a failli gagner l'année dernière. Je pense que ça peut convenir à la BM. Et s'il y a des erreurs, parce que je pense qu'il y a un tel climat de tension qu'il peut y avoir des erreurs aux avant-postes, je pense qu'il peut, il peut saisir son occasion.
Je dirais Massa, moi.
Ouais, direct.
Ouais, Massa, parce que c'est la fin de championnat, il a besoin de points, donc même si Raikkonen est mieux, je pense que là, pour le coup, le jeu d'équipe marchera.
Ouais.
Et puis peut-être de façon fantaisiste aussi Kubica. Parce que ouais. Je suis comme toi, j'aime bien les belles histoires. Et j'aimerais bien que ce soit une belle histoire qui termine le championnat.
Et puis, ne serait-ce qu'il s'invite ouais. dans la lutte finale pour la dernière course.
Ouais, s'il pourrait jouer le titre jusqu'au dernier.
On aimerait qu'il ne soit pas exclu du championnat à une course de la fin. Quoi. Ça serait beau d'avoir trois pilotes de trois écuries différentes encore en lice dans le championnat à la fin. Ça nous réserverait un Grand Prix du Brésil tonitruant.
Comme d'habitude.
À savoir que. Pour moi, il faut pas que Lewis cède plus de 3 points à Massa en Chine. Au Brésil, il est très fort, Massa. Il a gagné il y a 2 ans. Il aurait dû gagner la saison dernière, mais il s'est incliné. Donc, il a envie de gagner cette année. Il jouera le titre. Donc, je pense que là, il sera chez lui. Il sera bien, bien, bien dans sa tête. Et voilà. Moi, je pronostique déjà Massa pour le Brésil.
C'est pour ça que je suis aussi inquiet pour Hamilton, parce que je me dis que Fuji, c'était peut-être vraiment sa dernière chance de gagner.
Peut-être, ouais.
Parce que c'est vrai qu'en plus, les Ferrari ont toujours, plus, sauf peut-être une ou deux années, bien roulé en Chine.
Et puis les Ferrari ont montré qu'elles avaient un peu progressé, repris le poids de la bête. Ça a été leur saison a été très très sinusoïdale et voilà, contrairement à McLaren qui a été très très ascendante et stable. Voilà, donc Ferrari moi me semble, je dirais pas un poil au-dessus, mais me semble un petit peu plus percutante en ce moment. Et je pense que chez McLaren il va y avoir tellement la peur de ne pas refaire le scénario de l'année dernière que ils risquent de le refaire.
Ouais.
Donc voilà. Bah voilà, donc c'est tout pour l'actualité.
Bah c'est tout pour cette émission.
Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter, que ce soit le soir avant de vous endormir ou dans votre voiture le matin. Attention, feu rouge, attends, freine. Oh la vache Enzo, t'as raté là. Ah là, dis donc. On avait peur pour toi.
Un grand merci aux deux personnes qui vont nous écouter.
Oui, voilà. Un petit message perso pour balancer Happy Birthday to you, Enzo. 35 ans. ça fait mal, hein. Et puis, bah voilà, on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine.
Dès la semaine prochaine, oui.
Ouais. Pour un retour sur l'avant-dernière étape du championnat du monde à Shanghai.
Shanghai, c'est bien, la course sera à 8h du mat.
Ouais, 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 ça va être peinard, on va pouvoir dormir.
Ouais.
Bon, ça va me gâcher ma grasse mat, hein, parce que généralement je dors jusqu'à midi, mais Donc voilà, donc bah, bonne course à vous, bon week-end et à la semaine prochaine.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.